we've said 1,000 people have said we don't like the way the world is. Take our life from us. We laid it down. We got tired. We didn't commit suicide. We committed an act of revolutionary suicide.
Nous sommes 1000 personnes qui disons que nous n'aimons plus ce monde. Prenez nos vies. Nous nous allongeons, nous sommes fatigués. Nous n'avons pas commis de suicide. Nous avons commis un suicide révolutionnaire. Bonsoir. Cette voix que vous venez d'entendre, ces mots, sont les derniers du pasteur Jim Jones. Il les avait enregistrés juste avant de mourir le 18 novembre 1978, laissant derrière lui un monceau de cadavres dans la jungle du Guyana, un petit état d'Amérique du Sud. 910 hommes, femmes, enfants, vieillards et nouveau-nés des Américains empoisonnés avec une mixture fatale, un mélange de soda à l'orange et de cyanure, un suicide collectif qui cachait en fait un meurtre de masse. C'est cette histoire terrifiante, celle du Temple du Peuple, une secte puissante et influente, que nous allons vous raconter ce soir dans l'heure du crime. Car 40 ans après les faits, cette tuerie suscite toujours les mêmes interrogations. Comment un seul homme, Jim Jones, a-t-il pu mener à bien une telle entreprise? Pourquoi les États-Unis ont laissé faire ce révérend illuminé qui les défiait? Comment avait-il réussi à mettre sous influence un millier de disciples qui avaient tout abandonné pour le suivre et le vénérer, alors que le Temple du Peuple, à l'origine une communauté fraternelle et idéaliste, s'était changé en une prison cachant abus sexuels, punitions et humiliations. Le massacre collectif de Johnstown, cette ville dans la jungle qui portait le nom de son gourou, reste aujourd'hui encore le plus diabolique des mystères. Nous allons, avec nos invités, explorer ce soir cette manipulation mentale qui, dans l'histoire des sectes, même les mieux structurées, reste inégalée et défie l'imagination. Le massacre de Johnstown, un suicide collectif sur commande, l'enquête ce soir de l'heure du crime sur RTL, on se retrouve tout de suite.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir dans l'heure du crime, retour sur le massacre de Johnstown à l'automne 78 au Guyana. Plus de 900 Américains qui se sont donné la mort dans une communauté agricole. Le monde va alors découvrir une histoire terrifiante, la mainmise d'un gourou, Jim Jones. Mais pour l'instant, devant cette scène de crime inouïe, c'est la stupéfaction qui va l'emporter. Le 19 novembre 1978, à 3h29 du matin, le service de veille de la Maison Blanche reçoit un premier télégramme de la CIA. L'agence de renseignement fait état d'un suicide de masse à Johnstown. Puis quelques précisions. Des centaines de citoyens américains morts à Johnstown. Johnstown ne figure sur aucune carte. Mais la CIA et les autorités américaines connaissent parfaitement ce lieu, une cité érigée sur 11 000 hectares dans la jungle du Guyana, un petit pays d'Amérique du Sud aux confins du Venezuela et du Brésil. Une équipe de 120 militaires guyanais est aussitôt dépêchée sur place et aux premières heures du matin découvre une vision d'apocalypse. Sur le domaine de Johnstown, où une pancarte en bois souhaite la bienvenue et le bonheur aux visiteurs, les militaires tombent sur des centaines de corps. Tous sont normalement vêtus, serrés les uns contre les autres. Ils semblent avoir été ordonnés ainsi ou s'être volontairement positionnés de cette façon, face contre terre. Certains couples se donnent la main, des femmes, des hommes de tout âge, des adolescents et des nouveau-nés. Sur les 910 victimes recensées, le chiffre n'a jamais été arrêté avec précision. Sur ce total, on dénombre 304 enfants. Aucun bruit dans ce paysage de cauchemar où la vie s'est arrêtée la veille. Les victimes ne portent pas de traces de coups d'armes blanches ou d'armes à feu. Quand les premiers légistes arrivent sur place, ils notent toujours les mêmes stigmates sur les cadavres, une coloration bleue autour de la mâchoire et parfois des traces de piqûres, notamment sur les tout-petits. Les quelques autopsies qui vont suivre vont vite élucider les causes de ces morts brutales. L'ingestion ou l'injection d'une potion fatale. Un mélange de soda à l'orange et de cyanure, la dose de poison est si élevée que la mort est survenue entre 3 et 5 minutes. Sur le site de la tuerie, on découvre des bassines encore à demi remplies de ce mélange. Les fidèles de Johnstown ont apparemment défilé devant ces récipients, puis sont allés s'allonger pour rendre leur dernier souffle. Une macabre mécanique. Des seringues sont également retrouvées sur les lieux. Elles ont servi à tuer sans doute ceux qui ne voulaient pas boire le poison ou ceux qui ne pouvaient pas, comme les nouveau-nés. Un seul homme repose, lui, sur le dos, les yeux vers le ciel. Le seul mort d'une balle dans la tête, c'est Jim Jones, le gourou de Johnstown. James Jones, 46 ans, fait partie des victimes de la tuerie de Johnstown, cette cité idéale et agricole à qui il avait donné son nom. Le gourou de cette secte qui jouait avec un marxisme dévoyé et des préceptes religieux revisités est mort d'une balle dans la tête. L'arme, une carabine, a été retrouvée à quelques mètres de lui. On ne saura pas qui a pressé la détente. Sans doute un de ses derniers adeptes qui s'est ensuite donné la mort. Le révérend James Jones n'est pas un inconnu. Pendant des années, il s'est fait remarquer aux États-Unis par ses prêches, ses idées progressistes, rassembler les blancs et les noirs, ses idées révolutionnaires, partager les richesses. À la fin de ses sermons, il fait même chanter l'hymne communiste, l'International, à l'Assemblée. James Jones, visage austère, peau très blanche, cheveux très bruns, éternelles lunettes noires, a fondé le Temple du Peuple et du Plein Évangile, c'est son nom alors qu'il avait une vingtaine d'années. Il va faire prospérer son église, là où il est né et il a grandi, dans l'Indiana, en Indianapolis. Ses prêches séduisent de plus en plus d'adeptes. Le public n'est pas riche, issu de milieux populaires, souvent de la communauté noire, mais n'hésite pas à faire des dons au pasteur, à lui confier économie, héritage, à jouer aussi les rabatteurs pour que le temple du peuple prospère et soit de plus en plus puissant. On peut faire une confiance aveugle à ce pasteur qui, lors des offices, effectue des guérisons. Par la simple imposition des mains, parvient à faire marcher les paralytiques et à expulser les tumeurs cancéreuses, un faiseur de miracles. Au mois d'octobre 1961, James Jones a eu une vision divine. Une bombe atomique va anéantir deux villes américaines, Chicago et Indianapolis. Le spectre d'une confrontation nucléaire est alors dans tous les esprits. On est en pleine guerre froide, le gourou va donc déménager en Californie, suivi par 140 fidèles. Le révérend Jones affirme être une réincarnation du Christ, mais aussi de Moïse et de Lénine. Il s'oppose à la guerre du Vietnam, séduit des adeptes de plus en plus jeunes. L'église du révérend est respectée, très influente. Elle va faciliter l'élection du nouveau maire de San Francisco qui offrira à James Jones la direction des services municipaux de la ville. Le pasteur est une personnalité qui compte. Il va même entretenir une correspondance amicale avec Rosalynn Carter, l'épouse du futur président des États-Unis. Celui-là même qui sera au pouvoir quand on surviendra l'annonce du massacre de Johnstown. En ce début des années 70, le révérend James Jones sait que son temple du peuple, installé entre San Francisco et Los Angeles, ne va pas échapper aux accusations du fisc américain. Il pourrait perdre, du jour au lendemain, cette manne de dons qui l'a rendu riche et jusque-là intouchable. Une bonne partie de l'argent des fidèles et de l'église dort à l'étranger. Dès l'année 73, le révérend Jones songe à un plan de sauvetage, un exil, quitter les États-Unis. Il finit par jeter son dévolu sur le Guyana, petit pays socialiste d'Amérique du Sud où la corruption règne en maître, moyennant quelques centaines de dollars en pot de vin. Le Guyana va lui offrir l'impunité et 11 000 hectares de jungle où il pourra agir à sa guise. Dès l'année 76, la communauté agricole de Johnstown compte environ 400 personnes. Pour arriver à ce paradis libertaire que les journaux présentent comme une espèce de kibbutz, un lieu d'échange partagé, de travail et d'amitié, pour être reçu au sein du temple du peuple, il faut adresser son dossier médical. Les handicapés, les malades, physiques ou mentaux, sont systématiquement exclus. Les jeunes hommes et jeunes femmes sont accueillis en priorité, tout comme les adolescents dont les parents ont souvent signé, sans réfléchir, des décharges de responsabilité. Au fil des mois, un millier de personnes, des Américains, en grande partie des Noirs, va faire le voyage jusqu'au Guyana, une communauté hors du temps et hors des lois, où la vie sera forcément meilleure. Ce décor utopique va effectivement rapidement se déchirer. La vie à Johnstown est une vie sous emprise, sous surveillance, dictée par les consignes du tout-puissant et omniprésent gourou Jim Jones. Dès l'arrivée au temple du peuple, le passeport est confisqué. Le travail sur les parcelles de terre ou pour la construction des habitations est harassant, 12 à 14 heures par jour, 6 jours par semaine. Johnstown s'est doté d'une milice armée qui dissuade tout départ. La jungle avoisinante constitue à cet effet la meilleure des barrières. La dénonciation y est encouragée, les enfants manipulés, la méfiance est de mise au sein même des familles où les gestes d'amour et de rapprochement intime sont officiellement bannis. Au fil des mois, le révérend Jones ne cesse d'être gagné par le délire de la paranoïa et de la persécution. Il redoute une attaque de la CIA. Il réveille ses adeptes en pleine nuit à coups de haut-parleurs pour les convoquer pour un simulacre de suicide collectif. Il s'agit de tester leur confiance. Il les invite à boire un verre dont personne ne sait s'il contient vraiment du poison. Jusque-là, personne ne succombe jusqu'au jour où ce soda à l'orange contiendra vraiment du cyanure. Le révérend Jones a beau s'être exilé loin des États-Unis, au Guyana, les autorités américaines s'intéressent à lui. Des anciens adeptes de la secte rentrés au pays commencent à faire d'intrigantes et inquiétantes confidences. Le procureur de San Francisco déclenche une enquête sur le fonctionnement du Temple du Peuple. Le Congrès américain est également contacté par des ex-disciples. Une femme, Deborah Layton, raconte les simulacres de suicide. Des lettres de famille sont remises aux parlementaires, des proches inquiète de ne pas avoir de nouvelles. Les seules nouvelles qu'elles reçoivent sont des demandes d'argent, des virements à effectuer sur des comptes bancaires gérés par le Temple du Peuple. Tim Stone, qui était un proche de Jim Jones, a pu quitter le Temple du Peuple avec sa femme. Il raconte que le gourou l'avait contraint à abandonner la paternité de son fils et à lui donner son enfant qu'il veut désormais retrouver. Ce fils mourra dans le massacre. Un sénateur démocrate du Congrès, Leo Ryan, décide alors de se rendre au Guyana. Il n'est pas le bienvenu, il reçoit une lettre signée par 800 adeptes lui demandant de ne pas venir. Le temple estime que les autorités américaines sont en train d'organiser une mise en scène afin de nuire à la communauté. Le sénateur Ryan insiste. Le 18 novembre au matin, il arrive enfin à Johnstown, entouré d'une délégation de journalistes et d'avocats. La visite tourne vite à l'opération de propagande. Les adeptes se présentent sous leurs meilleurs jours, vêtus de propre, décontractés, pas un mot de travers contre le temple et son révérend. Jim Jones est omniprésent. La délégation est toutefois approchée par des disciples qui discrètement font part de leur désir de rentrer. Le parlementaire en informe aussitôt le gourou. Jim Jones fait bonne figure, assure que tout le monde est libre de partir de Johnstown. Le sénateur Ryan quitte la communauté en fin d'après-midi avec la délégation et 16 adeptes qui ont décidé de rentrer. Il roule quelques kilomètres jusqu'au petit aérodrome de Port Kaituma. Ils n'iront pas plus loin. Au pied des avions, une fusillade éclate. Des hommes de la milice de Jim Jones tirent. Trois journalistes et le sénateur Ryan sont tués. La nouvelle ne va pas tarder à arriver à Washington. Le pasteur sait qu'il n'échappera plus désormais aux autorités américaines. Il appelle donc à venger le temple. Tout le monde doit mourir plutôt que tomber dans les mains de l'ennemi américain. Dans un grand chaudron, cette fois, du cyanure est mélangé au soda à l'orange. Dans les jours qui suivent le massacre, les 910 cadavres américains restent longtemps sur place, certains dans un état de putréfaction avancée. Malgré l'ampleur du désastre, il ne va y avoir en tout et pour tout que 7 autopsies, dont celle du révérend Jones. Les résultats de ces analyses ne parviendront jamais en totalité aux autorités américaines, perdues par la bureaucratie du Guyana. Le petit pays, qui veut absolument se dédouaner de toute responsabilité, réunit un tribunal afin d'identifier les coupables. Selon un médecin légiste qui a examiné les cadavres, 700 auraient pris le poison contre leur gré sous la contrainte ou par injection. Des témoignages indiquent la présence de gardes armés empoignant des adeptes ainsi qu'un cortège d'infirmières employées pour les piqûres. Seules 200 personnes se seraient véritablement suicidées. Jim Jones en personne, avant de distribuer de gré ou de force le poison, avait averti les adeptes que la destruction du camp par la CIA était inévitable. Il avait envisagé une fuite vers l'Union soviétique, mais celle-ci était impossible. Il ne restait donc qu'une solution, accomplir un suicide révolutionnaire. La justice américaine ne se lance pas dans de longues investigations. La CIA s'exonère même de toute enquête. Seul le FBI va procéder à des recherches et des vérifications. Les comptes en banque de la secte du Temple du Peuple sont bien fournis. Pas moins de 10 millions de dollars placés dans des établissements au Guyana, Panama, Suisse, Luxembourg et dans les îles Vierges. Le détournement des dons des adeptes, un véritable trésor de guerre, l'un des plus importants qu'une secte n'ait jamais constitué. Des anciens responsables du Temple du Peuple seront interrogés, mais pour la plupart laissés libres. Seul l'un des tireurs de l'aéroport où le sénateur Leo Ryan avait trouvé la mort sera retrouvé, poursuivi. Larry Layton, c'est son nom, sera acquitté lors du premier procès, condamné à perpétuité lors du second. Il sortira de prison en 2002, après 18 ans d'incarcération, considéré comme un homme ayant subi un lavage de cerveau et qui serait resté sous l'emprise du révérend Jones.